pas.
Qu'est-ce qu'il y avait là avant? Ça s'appelle le barbieux. Barbieux, Bourbi. Donc on est dans la zone inondable de la Sambre. Donc zone inondable. Et justement, hein, quand les patrons d'industrie arrivent pour investir à Marchiennes, parce qu'on est dans le bassin charbonnier, ils ont besoin de quoi pour monter leur laminoir, pour monter leur sidérurgie. Ils ont besoin d'espace à plat, d'espace vide, connecté à la rivière, et dans lequel on va pouvoir créer des grandes infrastructures de transport. Ben voilà, le barbu, il offre toutes ces possibilités-là. On va commencer à assainir, évidemment, ces terrains marécageux. Et donc là, il y a vraiment des espaces qui ne coûtent rien, dont on n'a plus besoin, parce que c'était des prairies dans lesquelles hein, on produisait du foin. Comme l'industrie est en train de supplanter l'agriculture, ben, ces terrains ont perdu l'usage traditionnel qui était le leur. Et donc c'est comme ça que tout ce quartier industriel va s'installer dans la plaine alluviale de la Sambre. Et évidemment, le gros problème, c'est que ces usines demandent des ouvriers, hein, des ouvriers par milliers. Quand on voit les taux de croissance de Marchiennes, hein, en un siècle, on passe de 1000 habitants à 19 000 habitants hein, à Marchiennes. Ça donne l'ordre de grandeur. Hein. Donc ces ouvriers, où est-ce qu'on va aller les chercher? Ben dans un premier temps, on va aller les chercher dans le bourg de Marchiennes, mais bon, là, ils sont occupés à autre chose. On va surtout aller chercher dans les villages périphériques. Et ces ouvriers, évidemment, qui sont des ouvriers agricoles, hein, ils aiment venir travailler dans les usines en hiver, c'est-à-dire quand ils n'ont pas de travaux dans l'agriculture. Mais le problème des premiers patrons industriels, c'est que dès que la belle saison arrive, leurs ouvriers, ils ne les voient plus. Or, à la fin du 19e siècle, hein, ce qui va se passer, c'est que, on parle toujours de la révolution industrielle, il faut parler des révolutions industrielles. C'est-à-dire que les processus de fabrication vont changer au cours du temps et devenir de plus en plus complexes. Et requérir alors une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre qualifiée. Et donc les patrons hein, vont à ce moment-là consentir à investir dans du logement ouvrier pour fixer leur main-d'œuvre. On sait très bien comment ça fonctionnait. Le patron crée des maisons ouvrières, mais on a droit à habiter dans ces maisons ouvrières que si on reste fidèle à l'entreprise, que si on va faire ses courses dans le commerce du patron. Et le jour où on a mis la porte de l'usine, on perd tout. On perd son logement, on perd l'accès à son approvisionnement, etc. Mais c'est ce qui explique alors hein, cette imbrication hein, qu'il y a entre le logement ouvrier et les ateliers. Et dans le quartier de la rue Saint-Fiacre, hein, on passe par la rue du Blooming. Donc le Blooming, c'est une forme de laminoir. C'était de fabriquer des blooms, hein, c'est-à-dire des longues barres d'acier d'une section de 15-15 à peu près hein, sur 16 à 18 mètres de long. Qui vont être réchauffés et qui vont servir à faire des rails de chemin de fer. Oui, c'est un type de laminage. Quoi.
Donc à la fin du 19e, cette rue Saint-Fiacre était un ancien chemin, c'était un très ancien chemin, elle est sur la carte de Ferraris. Elle est vers Mons, plutôt vers Fontaine-l'Évêque. Tu vois. Et là, j'ai regardé, on l'a fait la route à pied, je n'ai plus vu vraiment de très anciennes bâtisses. Il y avait probablement, c'était un chemin, il n'y avait peut-être pas de maison vraiment. À partir du moment où la guerre vient s'installer, tu imagines, on a dit qu'il y avait un train toutes les 5 minutes, hein, il passait derrière chez nous.
Oui, on avait un train derrière.
Oui,
c'était un train devant et un train au milieu.
Et ça a complètement disparu cette voie, il n'en reste.
Ah oui, non, il ne reste rien.
On aurait bien aimé entrer.
Il reste le passage, le petit passage là-haut.
Oui.
Au bout de la rue.
À la rue de. Attends.
C'est pas Saint-Fiacre.
C'est les fonderies, rue de la fonderie.
Il y a une partie d'un ancien laminoir qui a été restauré, qui se trouve justement près de la rue du Blooming. C'est un bâtiment avec ce qu'on appelle un toit en chêne, hein, le fameux toit en dents de scie. Donc ça, c'est aussi très, très typique du 19e. Donc il fallait éclairer les ateliers, comme l'électricité arrive seulement fin du 19e, donc on privilégie l'éclairage naturel, mais il faut éviter que ça ne chauffe. Donc on est capable de faire des verrières, parce qu'on a de l'acier hein, en quantité pour faire des armatures métalliques. On commence à faire du verre plat hein, surtout à partir de 1880, puisqu'on a changé la technique de fabrication du verre. Et donc, on va faire des verrières avec des petits carreaux. Hein, ça, c'est typique de l'architecture industrielle. Comme ça, si on casse un carreau, il n'y en a qu'un petit à remplacer. Hein, on ne peut pas faire des grands vitrages. Et surtout, la partie vitrée, on la met vers le nord, hein, de manière à ce que le soleil ne donne pas dans les verrières, ne vienne pas échauffer les ateliers. Et ces fameux toits hein, en dents de scie, les Anglais appellent ça des toits en chets, hein, qui sont vraiment très, très, très typiques. Il en reste peu dans la région de Charleroi, donc c'est intéressant qu'on ait restauré ce bâtiment à Marchienne.
Maman, son mari, premier mari, était tué à l'usine. Mon grand-père a perdu un bras en travaillant. C'est des histoires. Ils habitaient presque dans l'usine, à l'Arvio. Et tout ça avec mon grand-père qui, lui, avait été amputé d'un bras parce que en raccrochant un wagon, son bras avait été écrasé. Ouais. Donc on lui avait déboîté le bras. Et le premier mari de maman, il a eu la tête écrasée. Il était bourrelier, donc il a été engagé à Léonard Gillot. Et il remplaçait une courroie à une des machines. Et pour moi, on l'a mis la machine en route. Donc sa tête a été écrasée. D'ailleurs, en allant à l'hôpital, elle n'avait pas reconnu tellement sa tête était enflée. Et il a encore vécu 2-3 jours ainsi. Mmh. Et, la sœur disait, surtout ne parlez pas, parce qu'il ne sait pas vous répondre, mais il entend ce que vous dites.
Les usines Henri, les usines Germain, hein, donc qui ont été des ateliers de construction métallique de très très grande renommée. Hein. Germain, ils ont fait des automobiles aussi. Parce que jusque dans l'entre-deux-guerres, faire une automobile, c'est faire un châssis et un moteur. Et puis, ceux qui sont capables de s'acheter une automobile vont faire carrosser leur voiture chez un carrossier. Ce qui explique la diversité des modèles qui peuvent exister. Et c'était vraiment, je dirais, hein, une marque d'identification des patrons de l'industrie, d'avoir leur voiture à eux. Louis Piret, par exemple, un patron de Saint-Éloi à Tilchâteau, s'est fait fabriquer la métallurgique, qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Une voiture unique.
C'est quand même pas évident. Hein. Mais le tout, mon père, il disait, hein, mais quand celui qui travaille au laminoir, il disait quelquefois, il crie, ces personnes-là, les ouvriers, là, ils gueulent, quoi, quelque part. Mais il faut être à leur place, qu'il disait papa, hein, parce qu'on n'entend rien du tout. S'ils ne gueulent pas, ils ne savent pas s'entendre ou se parler. Donc il y avait une explication au fait qu'il parlait si vivement ou si fortement, quoi.
Ouais, c'était un travail encore physique.
Ah oui, hein. En laminoire, oui. Et alors, d'un autre côté, celui qui était au fourneau, qui chargeait au fourneau, eh bien, il disait, eh bien, ils sont déshydratés, c'est bien croire qu'ils vont boire un verre en sortant. Ouais. Une question de boire de la bière, tout ça. Donc c'était pas... Il ne faut pas le juger de loin. Il expliquait dans quel contexte c'était. Et Jean, lui, il était toujours au travail. Il travaillait à la Providence, mais il chargeait les hauts fourneaux. Eh bien, il avait ses chemisettes. Parfois, il y avait des flamèches. Ses chemisettes étaient
brûlées.
Oui. Ouais. On a beau être grand et fort, mais on aime son travail. C'est bizarre, mais ils aimaient leur travail, malgré les conditions.